L'AJT du local.
À 12h15. Sur 107.9, 101.7, à l'autre radio, à Château-Gontier et puis à Laval aussi.
Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans l'AJT du local, un AJT du local ensoleillé, c'est un peu l'été, bon on n'est que le 1er juin mais on va en profiter, c'est un peu l'été, et c'est le retour de Claire. Salut Claire, comment ça va?
Eh oui, salut Marie, salut tout le monde, eh bien ça va très bien, et mardi 1er juin c'est aussi la Saint-Justin, et Justin en anglais c'est Justin. Donc bonne fête à Justin Timberlake.
Ouais. Oh là là, et ça c'était un petit peu... J'ai dit, il faut trouver un lien avec Justin Timberlake. Comment puis-je l'atteindre? Mais ça c'est... Mais c'est comme George Clooney. Hein. Je pense qu'il nous écoute en podcast, pas en direct évidemment avec le décalage horaire, mais je pense que le podcast, les vues qu'on a, c'est ça, j'en suis sûre. Donc bon, bonne fête en tout cas au Justin et au Justin, hein, comme beaucoup... Bien à la française, en ce 1er juin, dans cette émission, on va parler justement d'un premier comité local de l'alimentation en Sud-Mayenne pour justement mieux manger et aussi à l'origine mieux produire dans nos champs ici, mais aussi un petit peu dans la même optique de développement durable, en tout cas d'une entreprise qui veut développer le compostage, que ce soit aussi bien pour les particuliers que pour les restaurants d'entreprise ou les collectivités. Vous l'entendrez, ça ce sera le sujet de l'émission avec l'entreprise Les Pieds sur Terre à Cran. Et puis on poursuit notre feuilleton autour de la radio cette semaine, puisque oui, semaine spéciale autour de la radio. Hier, vous avez entendu le début de la création de la radio RMS pour Radio Musique Service, et vous entendrez justement la suite de l'aventure, ce sera en fin d'émission.
Mais tout de suite, Marie, un point sur l'actualité. Une centaine d'agents de la solidarité mobilisés ce matin devant l'hôtel du département.
Ils dénoncent leurs conditions de travail malgré l'annonce de la création de 15 postes et le rétablissement des week-ends de répit. Malgré tout, ils réclament donc plus de moyens humains nécessaires selon eux pour assurer correctement leur mission.
Les résidents de l'EHPAD du Bourgneuf-la-Forêt évacués cette nuit.
Et oui, à cause d'un violent incendie dans un local technique de l'établissement, les pompiers sont intervenus vers 23h sur place. Le personnel et les résidents, 86 personnes au total, ont dû être évacués à l'autre bout de l'EHPAD pour être mis en sécurité. Personne n'a été blessé, mais deux chambres restent inutilisables.
Où vous faire tester cette semaine en Mayenne?
Le centre de dépistage mobile de la Covid-19 continue son action de 9h30 à 13h30 et de 16h à 19h. Il est présent aujourd'hui à Ambrières-les-Vallées sur le parking de la salle polyvalente, demain mercredi à Saint-Berthevin, espace sportif Bernard Le Godet, mais aussi à l'Huisserie, place du Maine, ce jeudi à Château-Gontier à la Halle du Haut-Anjou, de midi à 19h, vendredi à Mayenne au parc exposition et à Laval à la salle du Palindrome, ce sera vendredi et samedi.
Un second tour pour les élections à Rennes en Grenouille.
Dans la commune du Nord-Mayenne, le premier tour des élections municipales partielles dimanche n'ont pas permis de départager les trois candidats. Les électeurs sont donc invités à se rendre à nouveau aux urnes ce dimanche. À Saint-Aubin-Fosse-Louvain, Philippe Léon, le seul candidat au poste de conseiller municipal, a lui été élu. Le prochain conseil municipal pour voter pour le maire a lieu ce vendredi. Et enfin, à Val-du-Maine, Frédéric Cottreau a été élu, mais les habitants devront prendre sans doute eux aussi à nouveau aller voter ce dimanche, puisque le 18 mai dernier, l'un des conseillers municipaux a présenté sa démission.
Et 12 spectacles gratuits proposés par le Théâtre de Laval.
Et ce, à partir du 12 juin. Et oui, le théâtre va essayer d'effacer un petit peu cette saison compliquée pour lui à cause de la situation sanitaire et propose donc cette programmation spéciale baptisée Sunny. Donc, comme le soleil, qui se veut Covid-compatible, avec une programmation assez variée. Il y aura notamment le 12 juin, pour le coup d'envoi de cette programmation, le groupe The Loire Valley Calypso, qui proposera un concert au Jardin de la Périne, ce sera à 18h. Et puis le lendemain, le 13 juin, un hommage à Freddie Mercury, ce sera sur le parvis du Château-Neuf, avec les Queen Amman. Les réservations ouvrent très très bientôt, hein, puisque c'est à partir de 13h aujourd'hui, sur le site internet du Théâtre de Laval, ou directement à l'accueil, du mardi au vendredi, de 13h à 17h.
Maxime Sorel vise le top 5 sur le prochain Vendée Globe avec un nouveau partenaire.
Le skipper a présenté hier son projet. L'entreprise castro-gontérienne V&B reste le partenaire principal pour cette aventure, accompagnée du département de la Mayenne et d'un troisième sponsor, les chocolats Mombana, basés à Ernée, ce qui lui permettra d'avoir un bateau plus performant, un bateau neuf à foil. Sa construction devrait donc commencer dans les prochains mois et sa mise à l'eau est prévue en juin 2022.
et Marie un premier comité local de l'alimentation en Sud-Mayenne.
Il s'est tenu il y a quelques jours à l'initiative du GAL Sud-Mayenne dans le cadre du PAT, le projet alimentaire territorial. Lancé il y a un an, il regroupe des producteurs, des élus, des consommateurs pour mener différents projets dans le but de produire et manger de manière plus durable. Premiers exemples d'actions menées avec ce comité, présenté par Vincent Saulnier, le président du GAL Sud-Mayenne.
Alors le dispositif Ferme en Transition, il fédère trois réseaux, la Chambre d'agriculture, le CIVAM Bio et le CIVAM AD. Il permet en fait d'accompagner une trentaine de fermes ou d'exploitations du territoire qui vont s'engager dans une démarche qui peut être par exemple un dispositif bas carbone avec la Chambre d'agriculture ou encore sur une forme d'agriculture de conservation ou une approche plus durable avec le CIVAM AD ou encore tout simplement une logique de conversion avec le bio, avec le CIVAM bio, avec une démarche, la méthodologie, des réunions collectives, un suivi, un diagnostic individuel. Notre approche, elle est bien de montrer que l'agriculture, elle est plurielle et qu'on additionne les forces, mais qu'on constate que globalement, tout le monde est dans un principe de convergence pour améliorer encore une fois nos productions et puis répondre aux enjeux sociétaux qui sont portés par les consommateurs.
Un autre projet important, celui mené dans la restauration collective.
Alors c'est le cas évidemment au titre des écoles primaires et c'est le cas aussi des collèges et du département qui lui aussi est mobilisé pour introduire plus de bio, plus de nourriture mayonnaise ou de production mayonnaise. Donc là aussi on progresse collectivement et ça passe notamment par la formation des professionnels de la restauration pour introduire progressivement plus de production locale, plus de production qualitative autour des labels par exemple. Oui, on a d'autres projets, notamment sur des dispositifs plus innovants, plus expérimentaux. Donc, c'est le cas, par exemple, autour de la transmission et l'installation. Où on essaie de développer et d'identifier des enjeux et des porteurs de projets, par exemple, autour du maraîchage, comment mieux les accompagner. Ou être exemple, au titre de ce qu'on appelle les paiements pour services environnementaux, les PSE, qui sont des dispositifs qui sont dans des démarches valorisantes et qui peuvent assurer un complément de revenus à certains exploitants qui sont dans une démarche bénéfique, positive, par exemple au titre de la capture du carbone. La ruralité, l'agriculture, c'est ce qui fait notre force aussi. Il faut aussi rappeler que ça a des vraies incidences en matière de développement économique et d'emploi, parce qu'il y a tout l'industrie agroalimentaire qui est rattachée. Il y a aussi évidemment le développement des circuits courts, des transformations en local, à la ferme. Là, il y a aussi beaucoup d'actions qui ont été conduites dans ce sens-là.
De multiples réflexions en cours, dont celle autour de la modernisation de l'abattoir de Cran. L'idée en tout cas, un an après la création de ce comité local d'alimentation, c'est bien la concrétisation et le développement de tous ces projets. On va parler justement d'un autre projet, là aussi autour du développement durable, l'essor du compostage. C'est ce que souhaitent évidemment les fondateurs des Pieds sur Terre, une nouvelle entreprise qui s'est créée il y a quelques mois à Cran. On en parle d'ici quelques minutes, mais avant, on écoute Yodelis avec Experience.
Experience looks at me overhead. Experience down to my stolen self. Tonight, real life just died. Tonight, is dead. To my fall.
C'était Experience de Yodelis dans la JT du local. Vous écoutez toujours l'autre radio, évidemment dans notre émission quotidienne d'actualité. Et on va parler justement d'un projet pour donner une seconde vie à tous les biodéchets. Mais oui, vous savez, toutes ces pelures de légumes, ces morceaux de pain sec ou autres aliments plus consommables. Comment ? Eh bien, en développant le compostage, une pratique qui existe déjà bien sûr, mais que les fondateurs de l'entreprise Les Pieds sur Terre à Cran veulent étendre, notamment à la restauration collective. On écoute les précisions d'Anne-Sophie Bréhin et Maxime Aubois, les fondateurs des Pieds sur Terre.
Alors, Les Pieds sur Terre, c'est une entreprise qui est spécialisée en fait dans la gestion et la valorisation des biodéchets. Donc, l'idée nous est venue en fait il y a un an maintenant. Pendant le premier confinement, nous avons eu l'occasion en fait de repenser nos modes de consommation, notre façon de gérer nos déchets au sein de nos foyers. Et du coup, nous avons en fait nous nous sommes documentés fortement sur le sujet. Nous avons aussi regardé ce qu'il se passait localement sur notre territoire, d'où l'idée en fait de créer une entreprise qui accompagne des producteurs de biodéchets à mieux gérer et valoriser localement leurs biodéchets. Aujourd'hui, en fait, les producteurs de biodéchets auxquels on s'adresse, ce sont notamment la restauration collective avec les établissements scolaires qui génèrent des centaines de repas quotidiens, les établissements de santé qui produisent plusieurs repas par jour, et également les commerces alimentaires, donc les traiteurs, les restaurants et les petits supermarchés.
Ça pouvait être une suite logique puisque j'ai de l'expérience dans le transport, donc j'ai été 13 ans dans le transport national puis dans les travaux publics, donc cette part de logistique et de prendre un projet avec un peu de logistique finalement dedans, donc ça complétait et c'était possible pour moi, c'était une suite finalement dans mon projet professionnel. Ça répondait directement à des valeurs locales, environnementales qui me tiennent à cœur et je vis avec ça dans la vie quotidienne et donc je voulais entreprendre finalement dans un projet qui répondent vraiment à mes valeurs personnelles. Donc voilà pourquoi on s'est lancé dans cette gestion et valorisation des biodéchets.
Eh bien, en effet, moi, à la base, en fait, j'étais cadre en communication pour un fabricant chocolatier français basé à Château-Gontier. Donc, une belle entreprise avec un beau rayonnement. Mais c'est vrai qu'à un moment, en fait, j'ai eu envie de rejoindre Maxime sur ce projet devant, en fait, l'urgence écologique auquel, en fait, plus personne ne peut être insensible aujourd'hui. Voilà, on s'est dit que à notre échelle, nous aussi, on pouvait agir avec nos moyens, avec notre complémentarité et nos différences et nos compétences. Et donc, du coup, voilà pourquoi on a décidé de se lancer sur ce sujet. C'est vrai que sur notre territoire, on voit bien quand même depuis des années que la collectivité a fait de belles choses sur la gestion des déchets, avec notamment la multiplicité du tri sur les différents déchets, etc. On sent que c'est très suivi comme sujet, mais malgré tout, en fait, il y a une loi en fait qui arrive à échéance fin 2023, la loi de transition écologique et de croissance verte, qui va en fait rendre obligatoire le tri des biodéchets pour tous les producteurs. Et là-dessus, en fait, nous, on a eu envie d'agir dès maintenant. Parce que, voilà, partant du constat qu'aujourd'hui, les poubelles des particuliers non triées sont composées à 30% de biodéchets. La restauration collective, c'est au moins 60%. Et donc, du coup, nous, on s'est dit que cette matière qui part aujourd'hui aux ordures ménagères méritait mieux que de partir à l'incinération ou à l'enfouissement, puisqu'elle est composée en plus à 80% d'eau. Voilà, on s'est dit que nos terres agricoles avaient besoin aussi de se régénérer. Voilà pourquoi on est parti sur ce projet.
Pour la restauration collective, nous faisons des diagnostics dans les établissements intéressés par cette démarche, donc un diagnostic de comment ils fonctionnent. On identifie un peu les gisements produits par ces établissements et puis on leur apporte des solutions au plus proche de leurs besoins finalement pour que ça ne soit pas une contrainte pour eux, ce tri, mais plutôt une action finalement logique Donc voilà, une fois par semaine, après ce tri-là fait par ces équipes-là, on vient collecter des contenants, donc soit des poubelles, soit des grands bacs en plastique, et on les emmène sur un site de compostage pour en faire du compostage de territoire. Donc le but étant de composter et de ramener ces déchets organiques finalement à la terre. Donc c'est de trouver une économie circulaire entre les producteurs, les consommateurs et puis les agriculteurs finalement qui produisent du légume ou du céréal, voilà.
Donc l'idée, c'est que, en tout cas, tout ce qu'on peut considérer comme des déchets dans l'assiette en restauration collective, qu'on ne va pas manger, finalement, ce soit réutilisé comme compost, et donc il n'y a rien qui ne parte à la poubelle ou, comme vous le disiez tout à l'heure, à l'incinération.
Bien, tout à fait, parce que biodéchets, bio, c'est biodégradable, donc ça veut vraiment dire qu'il y a une deuxième vie qui est possible pour cette matière organique.
Par contre, le but étant de vraiment trouver des partenariats avec l'agriculture et notamment des agriculteurs qui peuvent être intéressés par ce produit fini, donc le compost, qui en ont besoin, qui ont des besoins en compost ou en matière organique, et puis qui en font venir de part et d'autre, et de finalement réutiliser des déchets produits à côté de chez soi, dans nos champs pour la réutilisation et l'amendement des terres agricoles.
On vient de lancer une expérimentation avec le restaurant collectif de Gironde qui produit 850 repas jour pour donc les écoles élémentaires de Cran, de communes proches aussi, et également du collège Le Prioré. Donc pendant un mois, nous allons collecter ces biodéchets. Suite à cela, en fait, nous produirons en fait un bilan de cette expérimentation en vue de pérenniser une démarche à partir de la rentrée scolaire. Ce bilan va nous permettre en fait de mesurer la quantité produite et également en fait de démontrer surtout que le biodéchet peut en quelques mois, semaines, se transformer en compost qui sera réutilisé notamment sur des espaces verts de ces structures. Au quotidien, en fait, les équipes de restauration ont à cœur de produire des repas pour les centaines de convives. Ils intègrent de plus en plus de produits locaux, de produits frais, ce qui génère du coup une peluche assez importante, puisque quand on parle de produits frais, forcément, le poste légumerie est important. Ils avaient déjà fait un travail sur leur gaspillage alimentaire qui était plutôt intéressant. Et l'étape suivante, c'était du coup de passer à la valorisation des déchets produits. Et donc, c'est vrai qu'on a trouvé des équipes assez sensibilisées, assez motivées pour du coup valoriser ces biodéchets, pour voilà, leur donner une deuxième vie.
Il va y avoir effectivement ce mois de test avec ce restaurant scolaire. L'idée, c'est aussi, vous l'avez dit, de s'adresser à des commerces alimentaires, à des petits commerces alimentaires, mais aussi auprès de particuliers lors de la mise en place d'aires de compostage, c'est ça ?
Tout à fait. Aujourd'hui, en fait, on a à peu près la moitié des habitants qui ne peuvent pas ou ne veulent pas composter de façon domestique. Donc ces aires de quartier en fait permettraient de répondre aux différentes problématiques des usagers, et donc c'est vrai qu'on accompagne des collectivités et des associations dans la mise en place de ces aires de compostage.
Qui pourraient être installées dans tout le sud Mayenne ?
Oui, tout à fait. Après, ça, c'est des projets qu'on va réfléchir en co-construction sur des lotissements, sur des aires, des parcs, etc. Et puis, on va aussi donc avoir, enfin, on a une solution pour accompagner les petits commerces alimentaires comme les restaurants, où en fait, on leur permet aussi de communiquer et de valoriser leur démarche auprès de leurs clients, puisque du coup, on a un macaron qui est possible d'afficher sur l'établissement pour montrer que l'établissement va aussi plus loin dans la gestion de ses biodéchets. C'est un macaron en fait qui indique ici on valorise nos biodéchets avec les pieds sur terre. Donc voilà, c'est un sticker qui est posé sur les vitrines.
Macarons que vous pourrez sans doute trouver lors des prochaines semaines chez les commerces alimentaires partenaires de Pieds sur Terre. L'entreprise propose aussi des ateliers de sensibilisation au compostage auprès des enfants, dans les écoles ou bien dans les centres de loisirs, pourquoi pas cet été. On va passer à notre feuilleton, au deuxième épisode de notre feuilleton, mais avant ça, on écoute I Haven't de The Pedestrians.
I haven't got a beach, oh, I haven't got a lady. I don't know what this means to me. I am not a leader and I'm not prepared. I'm still so deaf of traffic, I'm still so awfully scared. Oh, tell me what it means, please tell me what it means. Is it as black as it seems? Is it as black as it seems? Tell me what it means to me, please tell me what it means. Is it as black as it seems? Is it as black as it seems? Tell me what it means to me, please tell me what it means. 'Cause we are left alone, we are left alone. We are left alone, we are left alone. We are just left alone, just left alone. We are left alone, we are left alone.
I Haven't dans l'agité du local, toujours évidemment sur l'autre radio. Et je vous l'ai dit juste avant cette pause musicale, on poursuit donc notre série consacrée à la radio à l'occasion de cette semaine spéciale. En 2021, on fête le centenaire des premières émissions radiophoniques depuis la Tour Eiffel, mais aussi, et c'est peut-être plus connu d'ailleurs, les 40 ans de la libération de la bande FM. Et oui, puisque les premières radios libres sont nées à partir de 1981. 1984 d'ailleurs, plus précisément pour la création de RMS, Radio Music Service, créé à Mayenne. On a entendu son président fondateur Christian Laigle hier, il nous a raconté la création de la radio, donc les tout débuts, et nous allons entendre aujourd'hui ce qui s'est passé ensuite, de la demande de fréquence jusqu'à la fin de la radio en 1993, mais n'allons pas trop vite puisqu'on s'était arrêté donc début 1985.
Et là, on a passé carrément une convention avec TDF et ils nous ont dit « Ok, votre émetteur en centre-ville Hygène, bah, si vous voulez, il y a de la place sur l'émetteur de la caserne Méran, vieille route d'Ambrières. » Et là, on est passé avec un émetteur et là, on arrivait à Louverné, de Mayenne à Louverné quand même, aux portes de Laval. C'était quand même intéressant. Et donc, on a réussi à avoir l'autorisation d'une fréquence qui nous a été attribuée. Ça a duré peut-être 6 mois. Mais par contre, à un moment, on a été sommé, bien sûr, d'arrêter. Alors là, c'était la grosse catastrophe. Il y avait carrément une manif devant les studios en train de dire non, n'arrêtez pas. Là, on était vraiment rentré en piraterie, quoi. On était illégal. On a eu l'autorisation. D'émettre. Alors, on était très prudents. Donc, on faisait les horaires où on savait qu'il n'y avait pas... l'administration n'allait pas venir, quoi. Le vendredi, après 18h, on était libre. Avant le lundi, voilà. Donc, en fait, on a émis pendant un temps en vraiment en station pirate. Et à l'époque, il y avait deux autres radios concurrentes qui se montaient sur la ville. On avait des concurrents indirects, même très agressifs. La concurrence, c'était coup de fil anonyme, des lettres anonymes, des dénonciations. Des choses comme ça. Ah oui. Petit à petit, on s'est un petit peu fédéré en radio départementale. À l'époque, il y avait Radio Périne sur Laval, il y avait Radio Maine-Angevine, il y avait des différentes radios sur Alençon, Normandie, enfin bref. On s'est changé des bons plans, quoi, des choses comme ça. À un moment, on arrive, ben, le nerf de la guerre, c'est quand même les finances, les finances, parce que mon frère avait été salarié comme directeur. On avait une animatrice quasiment permanente. On avait les deux tucs. Ça faisait quand même du personnel, quoi. Toutes les radios nationales, les chaînes nationales nous veulent un petit peu mettre leur marque. Nous, on cherche des programmes, on cherche à augmenter notre audience et tout. Donc, on est passé dans le réseau énergie, Fun Radio, voilà. Ouais. C'était une franchise. C'est-à-dire qu'on leur reversait une royalty, ils nous redonnaient des programmes et on démarchait la publicité. Ils avaient une commission sur la publicité. Lorsqu'a fallu négocier la fin de la radio, on a revendu la fréquence à Énergie qui est devenue Énergie Mayenne. Et voilà. Mais c'est surtout l'ambiance, c'est ça. Quand on dit que ça a été des années, c'était un petit peu des années folles, mais quand on est passionné, on est dedans, on ne voit pas. Si on réfléchissait à ce qu'on va faire, non, ça, on ne l'aurait jamais fait. Mais il y a tellement eu de bonheur et de rencontres, etc., qu'en fait, on dit, bah, ouais, ça fait partie de la vie, c'est des expériences.
Et pour réécouter le tout premier épisode avec Christian Laigle, là aussi, rendez-vous sur l'autreradio.fr. Petite précision, Christian Laigle parle de TUC dans le son. Alors, ce sont des emplois jeunes qui avaient été développés avec la préfecture à l'époque. Demain, on sort du coup de RMS. Hein. On va justement tracer l'évolution de la radio, non pas que en Mayenne, mais aussi au niveau national, depuis cette fameuse libération des ondes en 1981. Et on passe à la rubrique initiative présentée par Claire. Aujourd'hui, on rencontre l'ensemble Lady Sings the Blues à la médiathèque Claire.
Entre discussion et musique live, la rencontre entre les chanteuses sera un petit comité. L'ensemble de 19 musiciens prévus au carré pour le 17 juin sera ici de deux chanteuses pour discuter jazz entre Billie Holiday et Nina Simone, pour discuter autour de grandes thématiques comme le machisme et le racisme. Bref, un rendez-vous à ne pas manquer, c'est ce samedi 5 juin à 16h30 à la médiathèque de Château-Gontier et il faut réserver au 02 43 09 50 53.
Et après cette rencontre musicale, Claire, on a peut-être envie de vouloir profiter d'une bière en terrasse.
Et allez-y en écoutant son hymne par le groupe Mayennais Sans Prétention. Le groupe éclectique prépare son nouvel album et sort une ode à la bière intitulée Ma Blonde. Écoutez sans modération sur leur chaîne YouTube Sans Prétention.
Et oui, je crois qu'il est sorti justement à la réouverture des terrasses et c'était très libérateur. Et on sentait en tout cas dans l'équipe. Je vous invite à aller le voir, effectivement, comme Claire le dit si bien. Si vous avez d'autres initiatives à nous partager, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit via les réseaux sociaux, mais aussi avec via notre répondeur. Je rappelle, le numéro, c'est le 09 70 40 59 40. N'hésitez pas donc à nous contacter pour qu'on puisse en parler justement dans cette émission, puisque là, c'est déjà la fin, en tout cas pour aujourd'hui, ce mardi 1er juin. Merci Claire, à demain.
Et oui, merci Marie, merci tout le monde, et à demain sous le soleil.
On espère, on croise les doigts en tout cas, on vous promet rien, mais on va tout faire pour. On revient nous demain, mais évidemment, vos émissions préférées, elles, à l'antenne, se poursuivent. À 19h, il y aura les rendez-vous de l'APES avec Valérie, Lucie, Nour et Mohamed de l'association Miamia pour évoquer justement leurs différents projets. À 20h, vous retrouverez The Voice of Cassandre, et à 21h, Frères de Chaussures. Nous, on se retrouve demain, comme d'habitude, à 12h15. Je vous souhaite une très bonne journée ensoleillée.
Reportage, invité, interview. Voilà, c'est la JT du local.